Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons des vendeurs ambulants, des taxis moto, des réparateurs en tout genre, des produits d'occasion importés, les fameux France au revoir. C'est toute cette économie informelle et nous la questionnons, cette économie informelle. Est-ce un problème ou une nécessité pour les villes africaines? Partout sur le continent, les autorités mènent désormais des politiques parfois aussi soudaines qu'erratiques pour lutter contre le désordre urbain, que ce soit avec des déguerpissements de vendeurs dans des marchés rénovés, sur les voies publiques ou encore des guerres aux mototaxis informels. Et quant à vous, les voisins et les voisines, dites-nous ce que vous pensez de cette économie informelle. Faut-il faire évoluer ses emplois, ses commerces, notamment pour un minimum de cotisations sociales, santé, retraite ? Êtes-vous vous-même employé dans l'économie informelle ou plutôt un client, un consommateur de ces métiers informels? Contactez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis le message de Victor à Kisangani en RDC. Il s'exclame que tant de gens vivent de cette économie. C'est vrai, plus de 85% des emplois dans les villes du continent se trouvent dans l'informel. Message d'Alain à Bounia, toujours en RDC. Ici, le secteur formel d'abord est réservé aux étrangers. Bravo aux Wewa et aux donc les fameux taxis hein, et aux mamans ambulantes qui tiennent la seule économie qu'il nous reste et qui nous permet d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Djé à Boaké en Côte d'Ivoire nous dit « Moi, je suis devenu technicien agricole après 2 ans dans un institut étatique. Mais après le concours, je n'ai pas été pris au ministère. Du coup, je suis commercial de produits de santé et d'hygiène. Mon emploi est en fait totalement informel. » Supprimer l'informel, nous dit Djé, c'est empêcher les gens de vivre. Alors, quels sont pour vous les contours, les frontières de ce vaste réservoir d'emplois et de revenus? Quelles solutions? On en parle, bien sûr, avec nos invités. Et veut nous appeler au 33 7 64 45 51 41.
RFI.
8 milliards de voisins.
Bonjour RFI.
J'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble. Et nous devons marcher ensemble.
Avec nous, chez 8 milliards de voisins aujourd'hui, Jean-Fabien Steck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe à l'Université Paris-Nanterre. Nous sommes également en ligne à Cotonou avec Luc Nyakadja. Bonjour, monsieur Nyakadja.
Oui, bonjour.
Vous êtes architecte de métier, ancien ministre de l'Environnement au Bénin, ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et vous êtes aujourd'hui président de GPS Development, un groupe de réflexion sur les politiques urbaines de développement durable et donc aussi beaucoup sur la ville informelle. Jean-Fabien Steck, quand on parle d'économie informelle dans les villes, de quoi parle-t-on au juste? Quel est le périmètre de cette économie informelle?
Alors le périmètre est assez difficile à définir, mais il repose avant tout d'abord sur un indicateur qui est celui de l'emploi. C'est-à-dire qu'on va d'abord définir comme appartenant à l'informel des travailleurs, des entrepreneurs qui exercent des activités sous un format qu'on pourrait qualifier d'auto-emploi. C'est d'ailleurs le terme qu'on emploie de plus en plus souvent aujourd'hui et qui permet d'ailleurs aussi, en utilisant le terme auto-emploi, auto-entrepreneur, de donner une autre dimension à l'informalité et d'avoir un vocabulaire qui peut être parfois un peu moins connoté négativement. Vous l'avez dit en introduction, hein, ça peut représenter des deux tiers à 80% des emplois dans certaines villes. C'est donc quelque chose qui est extrêmement important et qui est générateur de revenus. Et c'est d'abord dans les années 70, par la question des revenus, qu'on a d'abord identifié ce type d'emploi. C'est-à-dire qu'on a identifié des revenus informels et en identifiant des revenus informels, on a identifié des emplois informels et donc on a identifié des opportunités entrepreneuriales informelles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces opportunités entrepreneuriales sont liées aussi aux lacunes de ce que l'on pourrait appeler par défaut, finalement, l'économie formelle. C'est-à-dire qu'il y a autant de niches entrepreneuriales que des entrepreneurs ont pu saisir parce que, par exemple, il n'y avait pas de canaux de conversation, de commerce au micro-détail destination des populations les plus pauvres. Ouais. Donc voilà, je pense que le couple consommateur entrepreneur et une bonne façon d'essayer de délimiter l'informel. Mais on voit d'emblée que c'est quelque chose qui est quasiment impossible
avec
à faire.
Avec des frontières très poreuses, notamment au sein de PME qui peuvent être déclarées au registre du commerce, mais avoir une partie de leur activité qui est en réalité informelle.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant dans l'informel, c'est qu'il y a une distinction que l'on peut faire entre ce qui relève des stratégies auto-entrepreneuriales et, deuxièmement, de ce qui relève de l'échelle des entreprises. En Inde, par exemple, la définition de l'informel, qui est une définition légale, repose justement sur le nombre d'employés, avec un seuil qui est fixé selon qu'on utilise l'énergie électrique ou pas au sein de l'activité.
Luc Nyakadjal, l'urbanisation s'accélère, ça veut dire que l'informel s'accélère aussi forcément dans son sillage dans les villes africaines ?
Oui, en fait, il faut relever déjà qu'en Afrique, le mot informel est négativement connoté. Et c'est dommage, parce que la ville africaine est informelle. Elle est informelle de par son économie, comme l'a dit M. Steck tantôt, elle est informelle spatialement, parce que 60% en gros des villes africaines sont constituées ou est constituée plutôt de quartiers dits informels. Et quand on a une ville qui, en réalité, est aussi largement informelle par son économie, par son habitat et même par ses systèmes de gouvernance qui sont amplement informels, la ville est informelle. Maintenant, si on doit rajouter le fait que chaque année, on a 20 millions de nouveaux urbains en Afrique, de 1950 à 2020, la population urbaine africaine a été multipliée par 20. Donc cette accélération-là, aucune capacité d'investissement ne permet de suivre. En fait, la ville croît plus vite que tout, plus vite que la capacité à investir, la capacité à gouverner. Et c'est pour cela que l'informel s'est installé. Mais cela a surtout commencé au début des années 80 avec la crise économique. Les crises et les investissements structurels ont fait que l'investissement public en milieu urbain a été l'une des grosses variables d'ajustement dans les années 80. Et c'est ça qui a donné le boom de l'informel.
L'informel qui s'installe sur du vide, d'une certaine façon, c'est ce que vous dites. Mais en même temps, les multinationales s'appuient sur le maillage informel de la ville. Je pense aux exemples de mobile banking, d'unités de crédit internet, de revente de boissons gazeuses. C'est-à-dire que des entreprises ultra-formelles, multinationales, ont su s'appuyer sur l'extraordinaire efficacité de cette organisation informelle de la ville africaine. Luc Nyakadjal.
Oui, c'est bien pour cela que les acteurs publics politiques africains doivent maintenant s'investir, s'employer à reconnaître les contributions des informalités urbaines à l'économie urbaine et à l'économie nationale. C'est comme ça seulement qu'on pourra en tirer le meilleur, comme l'exemple que vous venez de donner.
Vous parliez d'auto-entrepreneuriat tout à l'heure, Jean-Fabien Steck. Une connotation moins négative pour parler de ces emplois informels. Il faut quand même préciser que la plupart du temps, il n'y a pas de cotisations sociales qui sont payées, pas d'assurance santé, pas de retraite quand on est dans l'économie informelle. Et que donc, en gros, on n'a même pas 10 à 20% de la population qui a une assurance santé et une assurance retraite, c'est-à-dire les fonctionnaires et les salariés de l'économie formelle.
Oui, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ait pas mal de personnes qui exercent des activités informelles jusqu'à des âges assez avancés. Et qui d'ailleurs, parfois, j'avais rencontré à Lomé une vieille femme qui faisait du commerce sur le trottoir et qui s'opposait aux collecteurs de taxes municipaux en disant « je ne coûte rien, je ne touche pas de retraite, donc laissez-moi faire mon activité ». Ce qui montre bien aussi que l'exercice d'une activité informelle peut aussi être l'occasion pour des personnes qui ne disposent pas justement de ce qu'on appelle les minima sociaux, de pouvoir subvenir à leurs besoins.
Et ce qui veut dire aussi que l'économie formelle ne s'est pas réellement levée de l'impôt. C'est-à-dire que c'est une activité économique qui échappe à l'impôt sur les bénéfices, en tout cas, pas sur la TVA, parce que ça, tout produit importé pour un commerçant informel, il faut bien qu'il paye la TVA pour l'acheter. Mais c'est quand même un manque à gagner pour les États ou pas tant que ça ?
Alors pour les États peut-être, pour les municipalités c'est plus compliqué que ça puisque la plupart des commerçants informels qui exercent dans l'espace public urbain payent souvent des taxes de marché, même s'ils ne sont pas localisés sur un espace formellement identifié comme étant un marché. Et certaines municipalités ont même fait de la captation, des taxes de marché une source de revenus particulièrement importante, y compris d'ailleurs, et ça rejoint à ce qui a été dit tout à l'heure justement sur la part d'informalité de la gouvernance urbaine, certaines municipalités financent leurs activités par ces taxes de marché. Enfin, leurs activités non, mais en tout cas, à tout le moins, les frais récurrents.
L'entretien. Vous restez avec nous, Luc Niakadja et Jean-Fabien Steck. Dans quelques instants, nous ferons le point sur la récente interdiction du commerce ambulant dans les grandes artères d'Abidjan. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous avez la parole sur la situation dans votre ville. Le commerce informel est-il une solution ou un problème? Appelez-nous sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après une sélection piochée dans la playlist RFI Musique d'Aimé Arosena et Oguéré chez 8 milliards.
Soul rebels, Afro cultura, power to the people, rhythms. Soul rebels on the same page, Afro level, the rumba jazz, the funk, the treble, una misma identidad sin egos, mambi de cuna y en el armario libro de Martí, ritmos que hacen voces viva Cuba, negro en textura y más aún pongo en alto mi cultura, fuck de censura. Aquí no hay muñequitos Mickey. On the street surviving like freakies. Rebels is the stamp of our soul. The new sound of the funk, the jazz, the hip hop y el soul. Rebels como el Afrocani, el Mozambique, del Guaguancó, Yoruba y Abacuá. De tradición, de libertad, del fruto y las raíces. De unión, diversidad, blancos y negros. De batá, de batá, de batá.
Milliards de voisins, vous écoutez RFI, nous sommes en direct et nous nous discutons de l'économie informelle et de son poids croissant forcément avec la croissance urbaine dans les villes du continent africain. Est-ce un problème ou une nécessité pour les villes africaines? On en discute et vous pouvez bien sûr nous contacter au 33 7 64 45 51 41. Direction tout de suite la Côte d'Ivoire où vous vous souvenez, la ville d'Abidjan a interdit le 2 avril dernier le commerce ambulant sur les grandes artères, également la mendicité, l'usage des charrettes à bois, à bras. Et nous rejoignons tout de suite notre correspondante sur place. Bonjour Marine Janin.
Bonjour.
Cette mesure est-elle vraiment appliquée dans la ville?
Eh bien, oui et non. En fait, dans les faits, on voit toujours autant de commerçants ambulants dans les artères de la ville. Ils sont debout au feu rouge, au carrefour, ils slaloment entre les voitures dans les embouteillages, souvent au péril de leur vie d'ailleurs. Il y a celles, souvent des femmes, qui vendent aux automobilistes des sachets d'eau ou des produits qu'elles ont préparés, des chips de banane plantain, des biscuits, des arachides grillés ou des noix de petit cola. Il y a aussi ceux, plutôt des hommes pour le coup, qui proposent des marchandises achetées en gros au marché d'Adjamé, du petit mobilier de maison, parfois incongru, des poêles, des casseroles, des miroirs, des bassines, des ventilateurs, parfois même des matelas. Et puis, il y a aussi les enfants, ceux qui cirent les chaussures des piétons et lavent les pare-brises des automobilistes pour quelques piécettes. En Côte d'Ivoire, rappelons-le, l'emploi informel représente plus de 90% de la force de travail et 51% du PIB. C'est une population nombreuse qui n'a jamais été recensée, qui est aussi très mobile. L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire estime à 3 millions le nombre de commerçants sans magasin, un chiffre qui inclut à la fois les stands informels sur les trottoirs et les vendeurs ambulants. Il est très difficile de contrôler cette population et impossible de la bannir tout à fait. En revanche, les contrôles policiers se sont accentués depuis le mois dernier, quand le district d'Abidjan a promulgué cette mesure. Jusque-là, la police faisait de temps en temps des coups de filet. Elle dispersait les mendiants et confisquait ou détruisait sur place les marchandises des vendeurs ambulants. Mais ces descentes sont devenues plus nombreuses. La répression est aussi plus sévère. Les policiers n'hésitent plus à arrêter les marchands ambulants. Plusieurs vendeurs que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils avaient ainsi vu des collègues ou des proches, car ce commerce se pratique souvent en famille, être arrêtés et immédiatement incarcérés.
Et que pensent les Abidjanais de ces mesures d'interdiction ?
Alors, sur le constat de départ, beaucoup sont d'accord avec les autorités qui disent vouloir, je cite, « assainir le cadre de vie des populations, assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière, tout ça dans l'objectif de redonner à Abidjan sa réputation de perle des lagunes, je cite encore, une ville qui offre une meilleure qualité de vie à ses populations et aux visiteurs. » Mais ils reconnaissent aussi que les vendeurs à la sauvette sont entrés dans les habitudes de consommation des Abidjanais. Tout le monde s'est accoutumé à s'approvisionner ainsi dans les artères très embouteillées de la capitale économique. Il suffit de tendre le bras par la fenêtre, on voit aussitôt accourir un vendeur avec de l'eau ou de la nourriture, et il faut bien reconnaître eh bien, que c'est pratique. Et puis les Ivoiriens savent bien que les vendeurs ambulants exercent ce mode de commerce faute de choix. Les loyers sont très chers à Abidjan et ils ont flambé ces dernières années, et ça concerne les baux commerciaux aussi bien que les baux d'habitation. Pour louer une boutique, les propriétaires demandent aux commerçants une caution, qu'on appelle ici le pas de porte, et cette caution commence désormais à 10 millions de francs CFA. Tout ça s'inscrit dans un contexte où le district d'Abidjan a multiplié les déguerpissements depuis le mois de février, dès la fin de la CAN. Les déguerpissements, ce sont, on le rappelle, les expulsions par l'État des populations des quartiers informels pour détruire les habitations ou les commerces et récupérer le terrain pour des projets d'infrastructures nationales ou pour le mettre sur le marché. Dans toute la capitale économique et en particulier dans les communes de Yopougon et d'Atékoubé, on voit ainsi des milliers d'Abidjanais se retrouver à la rue, contraints à exercer eh bien, comme vendeurs à la sauvette ou à être réduits à la mendicité. Des solutions de relogement ont été annoncées par le gouvernement, mais les organisations de la société civile les jugent insuffisantes. Tout ça crée une grogne au sein de la population et on entend souvent dire ici que le gouvernement ne fait pas la guerre à la pauvreté, il fait la guerre aux pauvres.
Merci Marine Janin pour ce point sur le commerce de rue interdit désormais dans les grandes artères de la capitale économique ivoirienne. Luc Nyakadja, président de GPS Development, vous nous disiez en première partie d'émission que finalement l'économie informelle s'était installée sur du vide, notamment à la suite des ajustements structurels de la fin des années 90, de la fin de l'emploi public pour une partie. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ?
En fait, il faut se demander où vont les déguerpis. Quand on a fait des déguerpissements, ils vont où ? En réalité, c'est que le phénomène se métastase. Ceux qui sont déguerpis, ils vont recréer le problème plus loin. Donc le déguerpissement n'est pas une solution, en tout cas pas une solution durable, et ce n'est ni une solution pour la lutte contre la pauvreté, ni une solution pour créer une ville durable, à savoir une ville inclusive. Il faudrait plutôt chercher des alternatives qui intègrent l'activité informelle. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'économie étant largement informelle, comme l'a rappelé la personne qui a parlé d'Abidjan, et il faut voir comment est-ce que les économies africaines progressent. Vous voyez des fortunes d'aujourd'hui qui ont d'abord commencé dans l'informel. Donc comment on fait en réalité pour faire un cheminement pour ces personnes-là et comment on les prend en compte quand on pense la ville ?
Jean-Fabien Steck, vous êtes géographe à l'université Paris-Nanterre. Est-ce que c'est une réelle émulation, cette économie informelle ? Luc Nyakadja nous le disait, certains grands entrepreneurs ont commencé dans l'informel pour ensuite se formaliser parce qu'il est difficile d'avoir une réelle croissance aussi, hein, sans formalisation.
Oui, alors il y a toujours quelques success stories qui sont souvent mises en avant.
Rendent myopes.
Et qui rendent myopes sur quand même ce qui est le cas de la majorité de la population qui est d'abord dans une économie de survie et qui dégage trop peu de bénéfices pour pouvoir avoir une accumulation élargie. Mais néanmoins, qu'il y ait des success stories ou pas, la question du soutien à l'économie informelle d'une façon ou d'une autre est au moins un impératif social, en plus d'être un impératif économique au regard de l'importance que représente l'informel, la somme des petits bénéfices dans les produits intérieurs bruts. Ouais. Donc rien que pour ça, et indépendamment des success stories, c'est un enjeu politique et économique majeur.
C'est ça, quand vous parlez de soutien nécessaire, il s'agit du soutien de l'État. Alors justement, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41, on vous donne la parole. Paul Romain voudrait s'exprimer sur le sujet.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Paul Romain est en ligne avec nous chez 8 milliards de voisins. Bonjour Paul Romain.
Bonjour RFI.
Vous êtes étudiant en ressources humaines à Yaoundé au Cameroun. Vous êtes vous-même, est-ce que en tant qu'étudiant, il vous arrive d'avoir des petits boulots dans l'informel?
Oui, il m'arrive d'avoir beaucoup de petits boulots dans l'informel.
Par exemple?
Travailleur au chantier, travailleur dans une société d'assurance.
Oui, donc dans une société d'assurance qui elle-même est déclarée au registre du commerce, mais qui vous paye non déclarée.
Oui, bon, on peut pas dire que c'est une paye, parce que j'ai travaillé dans une société d'assurance et la plupart des sociétés d'assurance amène la population à subir, parce que quand vous allez dans la société, on ne vous paye pas à la base. On vous dit, vous travaillez et ensuite, voilà ce qu'on pourra vous donner.
Ouais. Vous ne savez pas à l'avance. À l'avance combien vous allez gagner. Ouais. C'est classique. Alors, c'est intéressant parce que en tant qu'étudiant, travailleur dans l'informel, mais aussi consommateur, vous achetez des biens de consommation dans la rue notamment, vous avez plusieurs solutions à proposer pour cette économie informelle.
Bon, déjà, pour un pays comme le Cameroun, je pense que toute la majorité, comme vous avez dit tout à l'heure, le pays fonctionne à 85% dans l'informel. Mmh. Donc, je pense que si déjà on pouvait organiser ces différents entrepreneurs, ces différentes jeunes personnes, ces différentes personnes qui veulent se débrouiller dans la vie, si on pouvait leur recadrer, organiser leur travail et leur dire, bon, voici ce que nous on vous propose. Voici ce que nous on vous propose à court terme, parce que chaque jour, la stratégie doit évoluer. On ne pourrait pas seulement qu'on s'asseye sur une stratégie et dire voici ce qu'on nous a proposé et c'est fini. On devrait proposer quelque chose et au fur et à mesure du temps, réfléchir comment évoluer et modifier la perspective.
Ça veut dire que dans le message que vous nous avez envoyé, vous nous disiez, Paul Romain notamment, il faut créer des boutiques qui sont numérotées, qui sont classées, donc forcément qui sont plus visibles, plus ordonnées. Et il faut surtout taxer ces boutiques pour que l'État puisse financer d'autres projets. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, c'est comme vous venez de dire tout à l'heure, je pense qu'ici, déjà, on crée déjà, parce que ici, là, l'État est en train de se plaindre que du désordre urbain. Donc, la proposition est que vous nous créez des boutiques dans lesquelles nous pouvons accéder, travailler et conclure une rémunération. Donc, nous pouvons avoir des boutiques. Et à travers ces boutiques-là, nous pouvons payer des taxes à l'État.
Oui, et ce qui permettrait de financer des formations, notamment pour les travailleurs de l'informel. Hein. C'est ce que vous nous avez dit dans votre message. Merci beaucoup, Paul Romain, d'avoir été en ligne avec nous. Un message de Salimata, en région parisienne, qui nous dit pour diminuer l'économie informelle en ville, il faudrait valoriser les campagnes, rendre les routes praticables et donner les moyens aux jeunes d'investir dans leur village. Et puis, il y a un auditeur en Mauritanie qui nous dit qu'il y a sûrement un modèle économique à penser. pensée qui serait plus adaptée à nos réalités, copier le modèle occidental, n'a jamais été une expérience heureuse, n'a pas été une expérience heureuse, pardon. Luc Nyakadja, est-ce qu'il y a un malentendu, vous pensez, entre le Sud et le Nord quand on parle d'économie informelle dans les villes, quand on parle de la nécessité de formaliser l'économie informelle et les emplois dans les villes africaines?
Oui, en fait, d'où vient ce besoin de formalisation? La compétition formelle-informelle a été gagnée par l'informel chaque fois, au plan économique, spatial et j'en passe. Menons un raisonnement par l'absurde. Supposons qu'on parvienne à éradiquer l'informel. La ville africaine s'arrête. Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus de ce recyclage informel des déchets, il n'y aura plus beaucoup de choses. Les services urbains dans les villes africaines sont informels. Donc, il y a comme une sorte de ville fantasmée où on pense à une marche forcée vers la dubaïsation. À mon avis, il faut, pour que la ville africaine devienne durable, il faut d'abord commencer par reconnaître les services que rend l'informel. Et à partir de là qu'on peut voir comment on peut organiser cela, réguler cela, quelle place leur trouver, c'est dans cette démarche-là. Donc, vouloir copier la ville occidentale nécessairement, à mon avis, c'est un chemin sans issue.
Enfin, un chemin sans issue, mais si on prend par exemple l'exemple du train express régional de Dakar, le fameux TER et les bus rapides transit aussi qui, eux, sont inspirés de l'Amérique du Sud, ils ont montré, c'est très formel, très organisé, ils ont montré leur adaptation aux besoins des habitants, alors qu'au départ, on avait dit c'est très cher, ça ne correspond pas aux besoins, et en réalité, ça a fait gagner du temps à une petite classe moyenne qui, certes, a préféré dépenser de l'argent dans des transports plus coûteux, mais plus efficaces. Par exemple,
vous voyez, je ne voudrais pas parler du TER parce qu'on n'a pas regardé pour Dakar quelle serait l'alternative ou quelles sont les alternatives au TER en termes de niveau d'investissement, de niveau de service à la plus grande population. On n'a pas regardé ça. Et si on avait regardé ça et on avait calculé, mis en place toutes les alternatives possibles, ce n'est pas évident qu'on aurait opté pour le TER. Mais bon, je n'ai pas fait l'étude, donc je ne peux pas en parler. Par contre, ce que je pense que l'on devrait faire, par exemple, quand on regarde les infrastructures qui sont réalisées dans les villes africaines, elles sont réalisées pour la voiture, alors que la mobilité urbaine est largement à deux roues.
Donc, voire à pied. La première mobilité urbaine en Afrique, c'est à pied. Hein.
C'est à pied et à deux roues. Et les infrastructures sont amplement réalisées pour les quatre roues. Il faut pouvoir trouver les transitions. Le mot-clé ici, c'est comment on fait la transition en commençant par reconnaître les services que l'informalité rend aux villes africaines et aux économies africaines par conséquent.
Jean-Fabien Steck, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous pensez que l'économie informelle, les services rendus par l'économie informelle ont un plafond de verre et créent aussi un plafond de verre à la ville africaine?
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et pour continuer dans le raisonnement par l'absurde, on peut même observer que, d'une certaine façon, c'est le modèle de l'informalité qui, via l'ubérisation, se diffuse dans les villes du Nord, correspondant à une somme de microservices dont on a besoin et offrant des emplois, dont on pourrait discuter d'ailleurs de leur dimension sociale et des conséquences qu'elles peuvent avoir aussi, mais qui offrent aussi des opportunités d'emploi. Donc je pense qu'on peut aussi retourner le...
Notamment pour financer ses études,
notamment
par exemple.
Donc on peut aussi inverser le... Quand on parle d'opposition Nord-Sud, pour le coup, on a là... alors, on peut discuter de la viabilité et de ce à quoi socialement renvoie ce modèle-là, mais il n'empêche que c'est un modèle qui peut s'inverser. Après, la vraie question, et on a commencé à l'aborder, c'est celle justement de penser à un urbanisme transitoire, c'est-à-dire un urbanisme qui ne soit pas perpétuellement en construction, en opposition à l'informalité, ce qui est assez frappant.
Ça, c'est la politique de déguerpissement.
De déguerpissement. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'informel est toujours considéré comme étant un élément du diagnostic urbain, qu'il faudrait donc éradiquer, sans que l'on réfléchisse nécessairement à ce que pourrait être le modèle urbain qui pourrait lui suivre. Ça revient à la remarque qui a été dite tout à l'heure, où vont les déguerpis? Et là, il y a quelque chose qui reste encore à penser.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Nous accueillons un étudiant et entrepreneur. Bonjour David, vous êtes à Bingerville, à Abidjan.
Bonjour Emmanuel, je suis à Bingerville.
Ouais, soyez le bienvenu. Vous êtes étudiant et entrepreneur, c'est-à-dire ?
Je suis étudiant et puis en parallèle, je fais des activités. Je mets des activités pour ma survie.
Oui, quand vous dites « je mène des activités », c'est-à-dire des activités informelles ?
Concrètement, oui, des activités informelles, c'est-à-dire concrètement, puisque j'ai un master en anglais, je fais de la traduction, je fais aussi des cours en anglais à domicile, et donc pour ma survie.
Et quand vous faites des traductions, c'est informel, hein, c'est pour des sociétés, mais qui vous payent comme ça de la main à la main, pas de cotisation sociale, rien.
Non, rectif, c'est pas pour des sociétés, c'est pour des particuliers. Souvent, des personnes peuvent, puisque je travaille avec en concours avec mes amis, et donc des personnes peuvent demander nos services. Et donc, je débauche certains amis sur le coup, ou bien moi-même j'y vais pour le marché. Mmh. Mais nous ne payons pas de taxes.
C'est ça. Mais donc, quand vous dites que vous êtes entrepreneur dans l'informel, hein, puisque vous faites travailler des amis à vous, et vous n'avez pas le statut qui existe en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, le statut d'auto-entrepreneur.
C'est ça.
D'accord. Et pourquoi ? Parce qu'il faudrait payer ?
Oui. En réalité, le sujet est clair. On parle ici de l'économie informelle. Alors, le problème ici, c'est plus que ça. Les facteurs explicatifs, c'est que dans notre cas, par exemple, pour la plupart d'entre nous, nous avons fait le département d'anglais. Mais le problème se retrouve dans le système éducatif. Le système éducatif qui, donc, n'offre pas l'occasion aux étudiants, par exemple, qui finissent l'anglais, d'avoir au moins des compétences en management. Et donc, quand ceux-là, ils n'ont pas de compétences en management, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, ils vont aller dans l'économie informelle. Ils vont essayer de se débrouiller, comme on le dit en Côte d'Ivoire.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'économie informelle cache le manque de compétences et que si vous ne pouvez pas devenir un entrepreneur formel, c'est-à-dire créer votre société de traduction, c'est parce que vous avez des compétences en anglais, mais vous n'avez pas les compétences en management et en entrepreneuriat. C'est ça. Sinon, sinon vous auriez pu accéder à la vraie création d'une PME, par exemple.
C'est ça, effectivement.
Jean-Fabien Steck, qu'est-ce que vous pensez de ce diagnostic et Luc Nyakadja ?
Alors, c'est un diagnostic qui a été fait depuis longtemps, en particulier parce qu'à un moment donné, c'était posé la question de savoir ce qu'il advenait des entrepreneurs informels qui réussissaient à accumuler du capital. Et en fait, ce qu'on observait, c'est que bien souvent, plutôt que de consolider l'entreprise sur laquelle, si on parle d'une entreprise, mais son activité, c'était plutôt de disperser le capital auprès de sa famille, de cousins plus ou moins éloignés, etc. Et l'argument des socio-économistes sont intéressés à la question. Et en fait, bien souvent, l'argument qui était avancé par ces entrepreneurs pour disperser leur capital, si je peux m'exprimer ainsi, ou plutôt pour le diffuser, qui serait plutôt un terme plus
par
approprié,
solidarité.
C'est aussi de dire que je suis un très bon menuisier, mais je ne suis pas un manager. Je suis un bon mécanicien, mais je ne suis pas un manager. Et donc, on va plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, on va participer, on va faire en sorte que le risque soit diffusé sur différentes activités entrepreneuriales. Mais surtout, l'argument qui a été mis en avant, c'est on n'a pas la capacité, on n'a pas les compétences pour gérer plus gros.
Donc, on voit bien les limites de l'auto-emploi, Luc Nyakadja.
Oui, mais en même temps... moi, je voudrais nuancer la question qui est réelle. C'est un vrai sujet de capacité managériale. Je ne connais pas beaucoup de managers formels avec, je ne sais pas, un DESS en management qui pourrait faire ce que les acteurs de l'informel font avec le peu qu'ils font, avec les contraintes qu'ils ont pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
Ah bon, à quoi vous pensez précisément ?
Prenez par exemple ceux qui font du recyclage des déchets urbains. Et pour pouvoir en tirer quelque chose qu'ils vont revendre plus loin. Mais c'est un véritable service rendu à la ville. Mais en même temps, je ne connais pas beaucoup de gens qui pourraient faire ça et en tirer des ressources. En fait, quand on parle ici de management, il y a un vrai besoin de formation. Donc ceux qui sont dans le secteur, il faut d'abord, j'insiste là-dessus, reconnaître et valoriser le service qu'ils apportent à la ville. Et investir, bien sûr, à formaliser, à encadrer, à apporter le savoir-faire, à apporter les compétences qui leur manquent pour pouvoir prospérer, pour pouvoir grandir.
C'est ça. Il y a des villes... Valoriser ces savoir-faire qui sont peu reconnus.
Mais bien sûr. Et en fait, parce que ce n'est pas reconnu, la seule solution qu'on trouve, c'est le déguerpissement. Et encore une fois, le jour où on aura déguerpi tout l'informel, les villes africaines seront à l'arrêt.
Alors vous, évidemment, David, en tant qu'étudiant et entrepreneur en traduction, entrepreneur informel, vous n'êtes pas déguerpissable. C'est l'avantage.
Oui, effectivement.
Qu'est-ce que vous pensez des analyses de Luc Nyakadja?
Oui, je pense qu'ils sont allés de la même direction. Une chose que je voudrais ajouter, c'est vrai, le problème est plus profond, c'est le problème de l'éducation. Et donc, par exemple, si nous considérons le fait que les enfants, déjà même dès le primaire, on leur apprend déjà les bases, par exemple, il a parlé de recyclage et tout ça, ce sont des activités qui se font, qui sont monnaie courante ici en Côte d'Ivoire. Et donc, si le gouvernement prend cela en compte et dit « Ok, on décide maintenant d'étudier ça, comment essayer de moderniser cette activité-là » Tout de suite, les gens vont s'intéresser à cela et les gens vont décider de ne plus travailler dans l'informel. Donc, comme rien n'est pris, alors tout est permis.
Merci en tout cas, David, pour votre témoignage. On n'a pas encore parlé, Jean-Fabien Steck, de la digitalisation et de l'ubérisation. Vous avez cité l'ubérisation, mais l'ubérisation, elle passe par la digitalisation. Aujourd'hui, on a dans les villes africaines énormément d'applis pour bénéficier d'un transport, y compris de taxi-moto, pour bénéficier d'une livraison d'un repas. Est-ce que cette digitalisation, elle peut permettre la transition vers l'économie formelle ou pas?
Je serais bien en peine de vous répondre, parce qu'on peut le voir de deux façons. Oui, elle peut être, et on peut avoir une vision positive en disant qu'elle participe évidemment de cette transition. On peut aussi la voir d'une façon négative, et je serais incapable de trancher entre les deux, de dire que finalement, certains producteurs de contenu et d'applications ont identifié des opportunités de revenus importantes ici. Voilà, ça pourrait être... Et d'ailleurs, l'un n'est pas nécessairement incompatible avec l'autre.
Luc Nyakadja, pour vous, les petits génies qui montent des applis, qui ubérisent les livraisons de repas, comme le transport de marchandises, comme le transport de personnes. Donc au départ, on a bien une existence légale d'une appli, a priori, encore que, mais ensuite ça table sur toute cette petite économie informelle et cette main-d'œuvre informelle qui va alimenter ces start-up. Est-ce que vous pensez que ça peut être durable?
En tout cas, c'est une opportunité pour l'informel. Ça permet la financiarisation de l'activité informelle. Ça permet, comme vous voyez par exemple, comment ces gens-là, ils gèrent leurs revenus, comment ils sont payés et comment où ils sont rémunérés tout simplement. La digitalisation apporte une opportunité précisément pour faire la transition de l'informel à quelque chose qui n'est pas forcément le formel qu'on a vu ailleurs.
Oui.
Quand on pense à Medellin, Medellin était avec...
En Colombie.
En Colombie, c'était une ville qui n'était fait que de l'informel. Mais il a fallu simplement que le maire, bon, bien sûr, après qu'il se soit défait de Pablo Escobar, qu'ils aient regardé comment on fait. Comment on reconnaît la contribution de l'informel et comment précisément on peut acter cela et qu'est-ce qu'il faut comme accompagnement pour faire une transition de durabilité pour la ville et pas simplement pour aspirer à un modèle fantasmé.
Jean-Fabien Steck, l'Inde, c'est le pays, alors là on parlait de la Colombie, mais il y a l'Inde, le pays le plus peuplé du monde, qui est aussi historiquement un pays d'économie informelle. Où en sont les villes indiennes là-dessus?
Ce qui est intéressant en Inde, c'est qu'en 2014, il y a eu une loi sur les vendeurs de rue. Et d'ailleurs, le titre de la loi est intéressant en elle-même parce que ce n'est pas une loi sur le commerce de rue, c'est bien une loi sur les vendeurs de rue. Donc, on s'intéresse d'abord à cette catégorie-là et ce qui renvoie à toute la réflexion sur l'informel qui s'identifie d'abord par l'emploi. Et l'enjeu de cette loi était de proposer un cadre légal permettant de garantir l'accès à l'espace public urbain aux commerçants de rue. Et avec l'idée qu'un des éléments de cette loi, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de déguerpissement sans solution d'accueil qui soit prévue dans l'espace public. C'est intéressant parce que ça vient à l'issue d'une grande réflexion législative en Inde sur la question du statut de l'espace public comme commun et sur le fait que justement la question de son accessibilité méritait d'être mieux encadrée pour éviter les aimants de conflictualité. Ce qui ramène à un autre élément qui est celui justement de l'articulation entre ces activités que l'on qualifie d'informelles et le droit, puisqu'on parle ici d'une loi.
Est-ce qu'il y a des exemples sur le continent africain, Luc Nyakadja, où on met tous les acteurs autour de la table, y compris les acteurs informels, avec des représentants, notamment je pense à des représentantes de commerce féminin, pour négocier sur les déguerpissements et sur une nouvelle organisation dans l'espace public?
J'aurais aimé pouvoir vous donner des exemples où effectivement, c'est ça qu'il faut faire, c'est le chemin à suivre, mettre tous les acteurs autour de la table. Et c'est, en fait, c'est un élément, à mon avis, c'est un élément essentiel de la reconnaissance dont je parle. Mais en attendant que cela n'arrive, il y a des exemples. Si vous prenez Accra, la municipalité d'Accra a établi des marchés spécifiques, au Ghana, a établi des marchés spécifiques où les vendeurs ambulants peuvent se rendre pour précisément commercer sans gêner l'autre espace public qui est commun à tous. J'aime bien aussi l'exemple de l'Inde qui participe du fait que la ville, en fait, il y a un droit à la ville. Et parce qu'il y a un droit à la ville, la loi doit pouvoir statuer sur tout ce qui est utile ou nécessaire ou en tout cas contribue à cette urbanité-là, une forme d'urbanité que la loi vient reconnaître. Donc, c'est heureux. Je prends l'exemple de Kigali. À Kigali, ils ont établi des permis pour les vendeurs ambulants leur permettant de savoir où et quand est-ce qu'ils peuvent intervenir et dans quel type d'activité.
Mais donc, en échange de quoi ? En échange, cette permission, elle attend quelque chose en échange de la part des autorités.
Sûr,
une taxe ou une demande de nettoyer l'espace public devant sa porte, ou il y a toujours quelque chose dans... Il y a un échange.
En fait, l'échange ici, c'est d'abord la reconnaissance qu'ils sont utiles. Le fait de leur, par exemple, si vous allez à Kigali, dans les marchés, il y a des espaces qui sont dédiés aux activités de qu'on peut appeler vendeurs ambulants, mais qui sont avec des types de boutiques qui leur permettent d'intervenir. Donc, il y a de l'investissement qui est fait, qui reconnaît l'activité comme étant nécessaire et utile, et qui donc permet de l'encadrer et de la réguler.
Jean-Fabien Steck, on arrive au terme de cette émission. Le commerce informel de charbon de bois, de biomasse plus largement, est source de déforestation, de problèmes de santé. Est-ce que là aussi, finalement, dès qu'on parle de développement sur le continent africain, puisque là, ça concerne vraiment le commerce de charbon de bois, vraiment maintenant aujourd'hui le continent africain, on bute toujours sur ces problématiques de l'informel ?
Oui, c'est un excellent exemple et c'est un exemple qui met aussi en relation le secteur dit informel urbain et le monde rural, puisque ce charbon de bois repose sur des filières qui parfois s'étendent très loin des villes, avec un bilan carbone qu'ailleurs, qui n'est pas simplement lié ni à la déforestation, ni au charbon de bois lui-même, mais aussi au coût énergétique du transport entre les zones de production et les zones de consommation. C'est un enjeu majeur et ça montre bien justement combien l'informel se situe à la croisée de plusieurs thématiques globales, des thématiques d'inclusion urbaine, on en a longuement parlé, mais aussi des thématiques qui sont des thématiques environnementales et qui ne sont pas tout à fait anodines parce qu'elles sont aussi parfois instrumentalisées politiquement pour justifier des déguerpissements. C'est-à-dire qu'on a une longue histoire de l'utilisation d'un certain nombre d'arguments. Ils ont été hygiénistes dans la première moitié du siècle. Ils sont toujours hygiénistes d'ailleurs, mais on rajoute aujourd'hui des arguments environnementaux pour justifier des déguerpissements et pour justifier justement de l'éviction de l'informel.
Ouais, donc, ce n'est pas l'ancien ministre de l'Environnement, Luc Nyakadja, qui vous dira le contraire.
Bien sûr que non, mais en même temps, quand on prend par exemple le charbon de bois, c'est un vrai sujet. Et que l'énergie consommée dans les villes est pour une bonne partie basée sur l'utilisation de la biomasse, le bois de feu qui est encore important, et le charbon de bois. Et c'est l'informel qui s'en charge, mais avec des conséquences importantes, comme par exemple, si vous prenez au Bénin, la consommation du charbon de bois a déjà permis de dépasser la capacité de renouvellement ou de régénération naturelle des forêts béninoises. Donc, il y a effectivement de vrais risques là. C'est ça qui amène aussi à dire qu'il y a urgence à réguler, à inclure et à faire en sorte que ce que l'informalité apporte soit transformé en positif dans les transitions pour la durabilité.
Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Luc Nyakadja, président de GPS Development, un groupe de réflexion sur les politiques urbaines de développement durable et sur la ville informelle. Vous êtes aussi ancien ministre de l'Environnement au Bénin, votre pays. Et merci à vous, Jean-Fabien Steck, géographe à l'Université Paris-Nanterre. Demain, 8 milliards de voisins, cuisiner en Afrique avec, là, ça sera de la cuisson propre, mais pas forcément avec notre partenaire, la chef Anto. Nous parlerons des huiles, huile de coco, arachide, palme. Bien sûr, on va parler de la quantité, du prix, de la qualité aussi et du choix. Et nos invités répondent à toutes vos questions sur les huiles pour que tout baigne dans la marmite, mais pas trop quand même, hein. Et vous pourrez nous appeler dès maintenant d'ailleurs au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec le groupe Dopamoon et Napke. De voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez pris l'émission en cours de route, c'est dommage, mais vous la retrouvez en podcast, bien sûr, sur l'appli RFI Pure Radio. Et pendant quelques jours, elle est stockée, sinon en permanence, sur RFI.fr. Merci à l'équipe qui prépare cette émission, Raphaël Pluskva, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac. Dans quelques instants, ce sera RFI Midi.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.